Accès libre.
Salut tout le monde, Luc Fortin en compagnie pour le mois de février de Jérôme Bobin, qui est directeur général d'Handicap International pour le Canada. Monsieur Bobin, heureux de vous retrouver ici.
Et heureux aussi, bonjour à tous.
C'est gentil, gentil. On va aujourd'hui causer avec Linda Gauthier, qui est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. On veut savoir comment loger une plainte, comment faire valoir ses droits finalement, quels sont les recours possibles. On va aller faire un tour du côté d'Haïti avec une personne que vous connaissez assez bien.
Oui, oui, tout à fait. Notre chef de projet sur la formation des orthoprothésistes en Haïti.
On va passer un petit peu de temps avec Jérôme également, puisque c'est notre première semaine ensemble. Regardez un petit peu son parcours et on démarre avec Laurence Parent. Laurence, qui a bien des chapeaux, mais aujourd'hui qui cause avec nous parce qu'elle est cofondatrice du groupe et coordonnatrice d'une pétition envoyée à la STM, le groupe Transport Inadapté.
Mésadapté,
merci. Ça se passait, j'ai ça ici, le 13 janvier, Laurence, quand vous avez fait paraître cette pétition où vous demandiez, évidemment, d'être appuyé dans vos doléances contre la STM, puisque... Bien, malheureusement, trop souvent, déjà depuis 2015, le transport adapté de la STM a réduit son offre de services pour cause de climat, alors qu'il n'y a pas eu tant de tempêtes de neige que ça.
Effectivement. En fait, on le sait, là, la situation, c'est l'hiver à Montréal. L'hiver cette année est particulièrement difficile. En fait, c'est ça, on s'est retrouvé avec des situations où le service était... réduit, suspendu, puis ça empêche les gens de se déplacer dans la ville, évidemment.
Si je vous demandais de résumer votre lettre que j'ai lue, que plusieurs ont lue, mais que tous n'ont pas lue.
Oui, en fait, c'est ça. Dans un premier temps, on soulignait le fait que il y a eu des restrictions de déplacement du 4 au 9 janvier, par la suite le 12 et le 13 janvier. Parfois, il y avait de la neige, parfois il n'y en avait pas. Donc ça, c'était une première chose où on trouvait que c'est difficile de comprendre, en fait, ces suspensions de services-là. Dans un deuxième temps, aussi la façon que c'est fait, le système de réservation par Internet qui est automatiquement bloqué, le fait que les transports qui sont catégorisés sous le thème des loisirs, eux, ce sont ces transports-là, en fait, qui ont été visés. Mmh. Puis ce qu'on dénonce, dans le fond, c'est cette catégorie-là qui ne fait, en fait, aucun sens à notre sens, parce que ça regroupe tout. Dans le fond, tout ce qui n'est pas un rendez-vous médical, relié aux études ou au travail. Et là, même au niveau du travail, ça cause problème au niveau des études aussi, parce que parfois, on peut se rendre dans une bibliothèque, on peut se rendre dans un café pour le travail ou les études. Mmh. Donc ça, c'est problématique. Un rendez-vous important à la banque, c'est un loisir. Donc, vous comprenez, la liste peut être longue. Des loisirs qui sont en fait la vie.
Ouais,
puis ce qu'on argue, dans le fond, notre argument principal, c'est de se dire, on croit que les personnes handicapées sont capables de juger lorsqu'elles sont capables de sortir ou pas. Les gens réduisent déjà leurs déplacements en hiver. Et surtout, lorsque les conditions sont difficiles, les personnes sont en mesure. Et puis, dans la réponse qu'on a finalement obtenue de la STM, on nous a dit qu'effectivement, les gens annulaient. Donc, on a un peu de difficulté à comprendre exactement ce qui se passe.
Ouais. Je présume que vous avez consulté une majorité des 287 membres associés à Transport Mésadapté pour savoir si, oui ou non, ils annulaient lorsqu'il y a de la neige ou pour voir si ça s'avère?
Oui, de par nos discussions. Mm-hmm. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est justement des gens qui avaient des raisons légitimes de se déplacer, puis ça, c'est propre à chaque personne, et puis qui expliquait à quel point que c'était problématique pour l'exercice, dans le fond, de leur citoyenneté, donc avec plusieurs explications du genre. Puis aussi, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que le transport adapté, qu'il fasse beau au mois de juillet, ça, c'est difficile. Donc nous, dans le fond, puis l'hiver dure longtemps au Québec, donc on ramène toujours ça, puis on veut pas non plus, l'hiver semble avoir le dos large, c'est un peu notre discours de toujours ramener ça, on l'amène lorsqu'il fait beau au mois de juillet, mais en hiver, on continue d'amener ces demandes-là, ces problèmes-là qui sont constants, puis on comprend que ça, c'est difficile en juillet, mais évidemment, c'est encore plus difficile en janvier. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions là, qui sont disponibles pour les personnes pour pouvoir se déplacer? Là?
La réponse de la Société de transport de Montréal à la lettre, bon, la gestion du transport adapté se fait dans un processus continu de concertation avec les personnes nommées de la table transport représentant l'ensemble des personnes vivantes en situation de handicap. Pourquoi ça ne vous satisfait pas? Réagi à ça également.
Oui, ben en fait, c'est pas... En fait, nous, ce qu'on croit, c'est que toutes les personnes doivent être consultées. Dans le fond, là, on consulte avec le milieu associatif à travers une table qui a certains critères afin d'y être admis. C'est pas n'importe qui là, qui peut siéger. Moi, si j'ai envie d'y aller demain, je peux pas y aller. Là, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne sur des principes de concertation. Ça veut dire que s'il y a un mouvement plus divergent, on peut l'appeler si on veut radical, là, qu'il y a d'autres idées, mais ce mouvement-là n'est pas nécessairement bienvenu là, autour de la table. Puis, je peux parler de mon expérience des 5 dernières années à ce niveau-là, là, où c'était très difficile de faire sa place au sein de cette table-là. Donc, nous, en fond, ce qu'on dit, c'est que la table existe, c'est bien, il y a des travaux qui se font là, bien, il y a également d'autres mouvements. Là. Ça, c'est comme dans tous les mouvements sociaux. Je veux dire, il n'y a pas juste la Fédération des femmes du Québec qui a le droit de parler pour parler des besoins et des droits des femmes. Là, tu sais. Donc, dans le cas des personnes handicapées, pourquoi est-ce que ça devrait être différent, dans le fond?
Qu'est-ce que Transport Mes Adaptés pourrait proposer comme piste de solution pour qu'un plus grand éventail d'opinions soit entendu?
Ben en fait, je peux parler de ce que j'ai vu, ce qui se fait à Toronto, où à chaque année, on organise des forums publics, des assemblées publiques, où vraiment concentré spécifiquement au niveau de l'accessibilité du transport, où c'est ouvert à tous. Il y a également, je pense, un besoin du milieu associatif qui a comme objectif, dans le fond, l'élimination des barrières, tout ça, de s'ouvrir aux autres mouvements. Je pense que c'est une force que certains groupes de personnes peuvent avoir de faire des revendications qui ne seront pas nécessairement pris dans un certain processus avec la SM où on collabore parce qu'on fait des gains petit à petit, mais je pense que c'est bien d'avoir des groupes qui sont en périphérie puis qui peuvent, sans trop de complications, faire appel directement aux médias, ouais, en parler, continuer à faire de la pression d'une autre façon. Donc, de cette façon-là, nous, ce qu'on veut aussi, c'est plus d'informations aussi pour comprendre la situation. Combien il y a de véhicules sur les routes? Combien il y a de véhicules disponibles un matin de tempête? Parce qu'on ce qu'on a su aussi, c'est que bon, la majorité du transport adapté est fait par des taxis qui sont sous-traités par l'ASM, et il y aurait des taxis le matin d'une tempête, ben, qui décident, non, moi, aujourd'hui, je travaille pas parce que c'est compliqué, puis les gens ont le droit de refuser, là, ce sont des travailleurs autonomes. Il y a toutes les questions aussi des droits des chauffeurs de taxi qui ont des conditions de travail assez difficiles. Donc,
mais toutes les questions qui sont probablement abordées à la table de transport, mais ce que j'entends, c'est que vous aimeriez justement que peut-être qu'il y a des consultations publiques occasionnellement, à tout le moins annuellement. Là.
Et l'information publique fait, hein, parce que les gens aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces rencontres-là, la plupart du temps, au niveau du milieu associatif, se tiennent de jour. Donc, ce sont des gens qui ont la chance de travailler dans des organismes qui peuvent y aller. Mais il y a plein de gens, là, des étudiants, des travailleurs, des bénévoles qui ont d'autres occupations le jour et qui ne peuvent pas se rendre. Puis justement, l'enjeu du transport qui est tellement critique, les gens ont de la misère à se déplacer. Ce qu'on remarque avec transport adapté, c'est que c'est une nouvelle façon pour bien des gens de s'informer, de donner leur opinion, tout en restant à la maison ou en étant sur leur téléphone, peu importe où ils sont. Donc, c'est une façon, j'ai l'impression, plus accessible pour bien des gens de participer au débat.
Et Laurence, pardon, moi j'avais une question vis-à-vis des autres, enfin des associations présentes à la table de concertation. Est-ce que vous avez eu une démarche auprès d'elles, justement, pour leur demander de vous faire de la place ou de vous accueillir à côté d'elles?
Ça a été fait dans le passé, mais la façon que ça fonctionne, c'est vraiment au niveau de la concertation, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas une très grande place à la diversité des positions et des opinions à ce niveau-là. au niveau de la concertation.
Mais
donc, c'est très difficile depuis plusieurs années.
Y compris de la part des associations déjà présentes à cette table, vous voulez dire qu'elles n'arrivent pas à trouver un peu d'espace supplémentaire pour
ouais.
faire de la plaidoirie en votre faveur, finalement?
C'est très difficile. Puis lorsque ça se fait, parce que ça se fait de façon cachée.
Mm-hmm.
Donc, il y a des gens qui, oui, comprennent l'importance d'avoir d'autres voix, d'autres mouvements, donc qui vont nous parler, nous donner des informations, mais c'est toujours fait de façon non officielle.
Ouais.
Et ça demeure très difficile. Là. Puis on ne peut pas compter sur la bonne volonté de certaines personnes pour transmettre ces informations-là. Là. Ça devrait être fait de façon... plus clair. Là.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne devrait pas compter sur elle. On ne devrait pas avoir à compter et non, on ne peut pas compter sur elle. Je veux juste comprendre
dans le sens où là, présentement, ce sont des gens qui de leur initiative plus personnelle.
C'est ça, ouais.
Vont OK, oui, ils ont une certaine volonté d'ouvrir les portes, mais en cachette, là, mm-hmm. ça demeure très difficile.
Ouais. Si je vous demandais, Laurence, parce que je l'ignore complètement, qui, pas nécessairement là, les individus, mais quels sont les organismes ou les instances autour de la table de transport? Avez-vous une bonne idée?
Oui, il y en a plusieurs. C'est des groupes qui sont essentiellement membres d'Europe, l'Europe MM.
Mm-hmm. Le regroupement des organismes de promotion.
Exactement. Il y a également des groupes qui représentent les personnes âgées. Donc, c'est vraiment des groupes représentant la table des aînés et des groupes de personnes handicapées à Montréal. Donc, c'est très difficile. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, lorsque des personnes handicapées, dont moi, ont porté des plaintes à la Commission des droits de la personne contre la STM, mais ça a été très difficile. Là, rapidement, on s'est rendu compte que... Non, ça fonctionnait pas. On pouvait plus être autour de cette table-là si nous avions déposé des plaintes. Mm-hmm. Donc, ça pose problème. Là.
Donc, il y a même un baillon, pas juste à Québec.
Tout ouais. à fait.
Si j'ai encore juste le temps avant qu'on termine d'ajouter un point, moi, je voulais juste préciser que le fait d'annuler, si c'est avéré, hein, des transports pour raison de loisirs, ça va totalement à l'encontre en fait de toutes les démarches d'inclusion qu'on peut nous-mêmes avoir sur les terrains. Là, je fais appel à mon expérience à l'étranger. Le loisir, tout comme le travail, tout comme les études, est à part entière un mécanisme d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, je pense que c'est pas la bonne justification en tous les cas de privilégier le travail, les études et par rapport aux loisirs. Il faut trouver une autre solution.
Effectivement, il y a des gens qui ont plus de... Il y a des usagers du transport adapté qui ont plus de privilèges que d'autres.
Ouais. Une dernière question, Laurence, puis Dieu sait que j'en aurai d'autres. La STM, dans ses journées plus complexes, dit on coupe parce que ainsi on a moins de gens à déplacer. Comme chaque transport prend plus de temps, mm-hmm. on ne veut pas augmenter indûment la liste des retards. Hein, on sait, les chauffeurs de taxi, s'ils sont 30 minutes en retard, soit qu'ils ont une amende, soit qu'ils se font taper sur les doigts, dès qu'il y a un appel contre eux. Donc, il y a quelque part quelque chose de logique là-dedans côté administration. Qu'est-ce que l'on pourrait proposer pour qu'il n'ait pas à réduire le nombre de déplacements?
Ben, en fait, on présume qu'il y a un manque de disponibilité de véhicules.
Oui.
Un problème aussi au niveau, comme je l'ai dit tantôt, de gestion, dans le sens où on ne sait pas combien de véhicules on va avoir de disponibles cette journée-là. C'est très compliqué de comprendre en sans les chiffres.
Mm-hmm.
On nous a dit qu'il y avait eu plus de 1000 annulations lors d'une tempête X là, et que grâce à ça, il avait pu offrir le service. On parlait d'annulation volontaire. Donc là, on se pose la question, OK, donc voilà, les gens annulent par eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'on doit restreindre? Puis ce qui est très dangereux aussi, puis ce qu'on critique beaucoup aussi, c'est le discours, on nous a répondu que les gens étaient libres de décider.
Oui, oui.
Mais non, les gens sont pas libres de décider, s'ils peuvent pas réserver. Donc, à la STM, lorsqu'on ne peut pas réserver pour un loisir, ben c'est pas considéré comme un refus de transport mm-hmm. ou comme une annulation. Donc, on dit, on n'a pas annulé de transport cette année. C'est ce que la STM répète, on n'a pas annulé. Sauf qu'on a restreint.
On ferme la porte avant même que... C'est ça. Les gens ne sont pas sortis. C'est juste qu'on n'a pas ouvert la porte pour qu'ils puissent entrer. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent pas sortir.
Exactement. Puis, ouais. Mais je tiens à dire que, parce que la SM dit on travaille pour que ça s'améliore, tout ça, et c'est vrai que ça s'améliore dans un sens, parce qu'on essaie de trouver des processus, tout ça. Puis, dans le fond, nous, on n'est pas là à dire la SM fait pas bien son travail, c'est une gang de méchants. Non, on est juste là parce que les gens vivent des difficultés, puis on veut parler de des problématiques. Puis on a l'impression qu'en en parlant, ben ça fait plus de pression. Puis on peut-être qu'on va avoir plus de financement. Puis on garde en tête le fait que le financement est en baisse, puis que la demande est en hausse, puis que l'hiver, elle, est toujours la même.
Merci beaucoup, Laurence Parent.
Merci.
Laurence,
merci.
Qui est cofondatrice du groupe Transport Mésadapté, vous trouverez ça sur le web. Ils sont 287 jusqu'à maintenant. Et ben effectivement, plus il y a de gens là, plus également il y a de diversité, plus de besoins et de réalités seront représentés dans les demandes. Yann Kelly, ensuite, on cause justement de la façon de faire respecter ses droits avec Linda Gauthier.
There's a part of me that's made entirely of generosity. Can I be a better man? Can I go to war and make them understand? What's the use in generosity if I just keep it all for me? Can I talk sense into them, even though I have a weapon in my hand? Can you take me home for a little while? Can you bring a smile? Can you take me home? I wasn't that say no, my country is as mad as the neighbors. We are killing for our wealth, but we just care about our economic health. It's sad to say, so you see.
Take Me Home, extrait de son deuxième album, le premier étant pas mal moins connu. Yann Kelly sur Canal M et sur canalm.ca. Elle est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Linda Gauthier, bonjour.
Bonjour, Luc.
Je suis à réfléchir sur la possibilité de loger une plainte ou faire valoir mes droits ou Et là, je me demandais, moi, sur une base personnelle, comment je dois m'y prendre. Et je me disais, tiens, il y a peut-être un sujet là parce que je suis pas le seul.
Non, définitivement pas. Vous êtes pas le seul. Et puis, je suis bien, bien contente que vous ameniez ce sujet-là parce que c'est plus ça va, je pense que plus les gens, les personnes handicapées, en fait, revendiquent leurs droits. Mm-hmm. Et c'est la meilleure façon, je pense, de passer par les instances officielles que sont les commissions des droits de la personne qui travaillent sur le facteur discrimination et exploitation.
La différence peut-être entre les deux, Linda?
Ben, exploitation, on voit ça peut-être plus chez les personnes âgées, je dirais, chez des choses qu'on leur promet ou des choses auxquelles elles ont droit, puis on veut pas leur octroyer un bien, comme exemple un ascenseur qui pourrait avoir droit à être installé en vertu du programme PAD ou des choses comme ça. Le propriétaire ne voudrait pas signer. On peut y voir là une forme d'exploitation qu'on peut faire valoir auprès de la commission.
OK. Donc, on a dit discrimination, on a dit exploitation, ce seraient les deux grandes catégories.
C'est les deux seules d'ailleurs que l'Assemblée nationale a donné comme mandat à la commission des droits.
Bon, il y a une commission au fédéral, il y a une commission au provincial.
Oui.
Peut-être nous dire la différence entre les deux et est-ce qu'au fédéral, c'est aussi exploitation et discrimination?
Oui, c'est exactement la même chose. Au fédéral, en fait, ils vont s'occuper de tout ce qui est de compétences fédérales.
Ouais, okay.
Les banques à charte, les bateaux,
les
avions, trains, ces choses-là.
Ouais.
Bon. Et eux ont des délais de prescription de un an seulement. C'est-à-dire, à partir du moment où vous subissez un préjudice, ben vous avez un an et pas un an et un jour là, auprès d'eux. Ils sont assez drabes, là, je dirais, assez stricts dans pour déposer votre plainte, en fait.
Ouais. Comment procéder? En personne, au téléphone, par l'intermédiaire d'un organisme?
Ben, écoutez, premièrement, quand on subit un préjudice, déjà au départ, là, c'est douloureux, on a ça fait de la misère à s'en remettre. Mais si on décide de le faire soi-même, on peut le faire de façon, on peut se rendre à la commission des droits de la personne. Là, je parle de la provinciale parce que la fédérale, c'est plus compliqué, là. C'est à Ottawa, il faut vraiment le faire par téléphone et en tout cas. Mais la provinciale, on peut se rendre sur place. Moi, je dis que si on est une personne en situation de handicap, c'est toujours préférable de téléphoner avant parce que l'entrée principale est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'indications pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais on peut le faire aussi au téléphone. Si on le fait au téléphone, la personne qui va prendre l'appel va nous diriger vers la bonne personne et puis elle va rédiger les faits et tout ça. On peut le faire aussi par courriel. C'est une façon de le faire. Et quand la plainte est jugée comme étant recevable, c'est-à-dire que les faits rencontrent vraiment là, les aspects discriminatoires, à partir de là, on va nous assigner un dossier et puis on va soit transmettre ça, on va nous demander si on veut aller en médiation ou en arbitrage.
Je me souviens dans le passé, lorsqu'on parlait de plaintes que vous aviez placées au nom du RAPLIC, on parlait parfois d'avocats.
Oui.
Est-ce que c'est nécessaire? Je suis peut-être moins bien nanti auprès de la commission si je n'ai pas d'avocat.
Non, absolument pas, parce que, ils ont quand même des principes directeurs. Ils sont là pour accompagner, pour aider, toujours en demeurant impartial, bien entendu, surtout si on parle de médiation. La majorité du personnel qui travaille en médiation sont des avocats, mais n'ont pas la fonction d'avocat à l'intérieur de la commission. Sauf que vous pouvez, Luc, si vous portez plainte, vous pouvez être accompagné de qui vous voulez, OK, qui va peut-être souvent vous faire penser à quelque chose qui s'est passé, à qui vous avez raconté, bien sûr, là. Vous pouvez aussi être accompagné de quelqu'un qui a peut-être plus, sans être nécessairement avocat, qui a peut-être plus de notions juridiques, là, qui connaît peut-être plus les termes légaux, ces choses-là, pour vous accompagner, mais c'est vraiment pas nécessaire.
OK. Moi, c'est contre la STM que j'en ai. Je vous dirai pas quoi exactement encore. On va installer le dossier, on va le monter d'abord, mais...
C'est vraiment étrange.
Lorsqu'on s'en va, je veux dire, il y a des étapes avant d'aller, j'imagine, à la commission. Peut-être que vous... Est-ce que je devrais parler à la STM? Est-ce que je devrais en parler à un organisme? Quelles sont les étapes?
Ben, les étapes, effectivement, c'est toujours préférable. Ce n'est pas nécessaire, mais moi, je dois recommander que c'est bien de faire une tentative auprès de ce qu'on appelle les mises en cause. OK? Ouais. Ceux, les méchants, parce que nous, on est les bons.
Oui, bien oui.
Et c'est ça. Et c'est toujours mieux de pas nécessairement par une mise en demeure, mais je dirais pas non plus par un téléphone. Alors, par une lettre, OK? Yeah. De préférence recommandée, parce qu'ils pourront pas jamais dire « Ah, oh, je l'ai pas reçu la lettre, ça nous est arrivé. » Et étrangement, Luc, au même endroit où vous parliez tantôt.
OK.
Alors, moi, je recommande une lettre recommandée. Je recommande là. Mm-hmm. Et à partir de là, ben là, ils ont le temps de vous répondre. Mais en tout cas, ça dépend des instances, là. Souvent, ça donne pas grand-chose. Fait que là, ben, à partir de là que vous avez envoyé une lettre, moi, je dirais que vous pourrez leur laisser un 30 à 45 jours. Et puis, s'ils vous ont pas répondu, libre à vous de leur envoyer une mise en demeure ou pas après. Okay. Mais c'est pas nécessaire, c'est le temps de porter plainte après ça.
Bon, justement, la plainte, quels sont les délais?
Bon, les délais, si vous acceptez la médiation, en tout et partout, ça peut prendre maximum 6 mois. À partir du moment où on reçoit votre plainte, on l'évalue, ça prend à peu près un gros mois, là, je dirais. Après ça, qu'elle soit assignée à un médiateur, une médiatrice, si vous acceptez la médiation, bien sûr, ça va prendre à peu près un autre mois. Et le temps qu'on contacte le mis en cause, ça peut être les mises en cause aussi, ça, encore quelques mois. Fait qu'en dedans de 6 mois, là, c'est vraiment fait et classé.
Et en une minute, Linda Gauthier, la différence et les avantages et désavantages de l'arbitrage versus la médiation?
La jurisprudence. Vous n'aurez jamais de jurisprudence en médiation. Vous pouvez avoir quelque chose qui ne restera pas privé, mais ça met le couvert sur la main, mais ça met un plaster sur le bobo. Et ce que je voulais ajouter aussi en terminant, c'est que si les gens n'ont pas l'énergie ou la capacité de le faire, nous, on peut le faire. On peut les assister, les représenter, rédiger la plainte pour eux et les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient... que leur préjudice soit lavé, je dirais.
Ouais. Je reviens à l'arbitrage. Donc, c'est une façon de trouver une solution, mais pour la personne versus un changement généralisé, c'est ça?
Exactement. Okay. Et pour en faire bénéficier les autres qui pourront subir la même chose après eux. Ouais. Sauf que ça dépend toujours du juge. Hein?
Ah, OK. OK. Ben, on va se reparler de toute façon parce que, ben, on l'a déjà dit il n'y a pas si longtemps, on attend des nouvelles, vous, d'une des plaintes au mois de mai.
Oui.
Je me souviens même plus c'est laquelle, tellement.
Le 19 contre la STM.
OK. Mm-hmm. Pauvres autres.
Oui.
Ils sont sollicités, mais c'est parce qu'ils sont un petit peu délinquants parfois. Merci beaucoup, Linda Gauthier.
Merci, Luc. Au revoir.
Linda, présidente du conseil d'administration du RAPLIC. Jérôme Bobin, on se connaît un petit peu, mais bien peu. Donc, dans 2 minutes, je vous pose plein de questions pour savoir pourquoi vous êtes à Handicap International.
Très bien.
Vous écoutez Accès libre.
Ben oui, de retour à Accès libre pour cette première de l'année 2015. Il était temps, direz-vous, et vous avez tout à fait raison. Les membres de l'équipe, Rémi Hermoso à la mise en onde, Anne-Laure Janson à la recherche, Claudia Benoît, elle qui est aux réseaux sociaux. Co-animateur en février, c'est Jérôme Bobin, mon nom est Luc Fortin. Et ben, le temps est bien choisi. Avant de parler à un collaborateur de Jérôme, de connaître un peu mieux Jérôme, à qui l'on a parlé ici et là, selon les dossiers, que voulait promouvoir Handicap International. Commençons par le commencement, Jérôme. Le Québec, c'est tout récent pour vous, 30 décembre 2012, et vous êtes déjà directeur général d'une boîte. Est-ce que tout ça était prévu? Aviez-vous un plan de carrière dessiné?
Ah non, absolument pas prévu. Le plan de carrière, c'était évidemment, par contre, accompagner Handicap International ici au Québec et au Canada. Moi, ça fait déjà quelques années que j'officie au sein d'Handicap International, depuis 2006. C'est vrai qu'avant, c'était plutôt en Europe, au Luxembourg en l'occurrence. Et puis, la volonté première était de, de rejoindre le Québec et il s'est trouvé qu'Handicap International avait besoin de renforcer son équipe à l'époque sur des profils plutôt de communication. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, de lier l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de continuer mon travail au sein d'Handicap International et puis de rejoindre un pays qui m'attirait depuis très longtemps.
Pourquoi le Québec? Qu'est-ce qui est attirant du... Vous n'allez pas me dire encore les grands espaces puis les orignaux, là?
Ah, les grands espaces et les orignaux, non, non, le Québec, mais depuis tout petit, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été très intéressé par rejoindre cet autre continent, finalement. Il faut bien se rendre compte que pour l'Europe, le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, toute l'Amérique, c'est l'aventure, c'est très loin, on a été nourris, enfants, de toutes les séries télévisées nord-américaines. C'est une façon de vivre ce rêve-là un petit peu nord-américain dans une forme de confort, vu que le Québec nous accueille dans notre langue natale. Donc, ouais. C'est aussi très, très réconfortant quand on est candidat à l'expatriation.
Tiens, puisqu'on est à se découvrir, je suis curieux, ce qui vous a agréablement surpris depuis votre arrivée et ce qui vous a déçu?
Agréablement surpris, la gentillesse...
Vous n'attendiez pas.
Ah, ben on n'attend pas grand... Enfin, j'avais des grandes espérances, c'est-à-dire j'avais envie que tout se passe bien. Mmh. Mais ce qui est agréable, en tous les cas, c'est la convivialité instantanée, très honnêtement, des gens, des Québécois. J'ai eu aucune situation de mal-être ou de rejet ou des choses comme ça. Tout de suite, moi, je me suis en tous les cas senti très, très, très rapidement accueilli et apprécié par la communauté québécoise.
Est-ce que ça peut devenir envahissant presque à un certain moment lorsqu'on n'y est pas habitué?
Eh bien non, justement, parce que c'est l'aspect peut-être un peu plus négatif ou un peu plus étonnant, c'est que cette convivialité, elle est instantanée, mais je trouve qu'elle se transforme un peu plus lentement en amitié et en relation plus durable. Alors c'est aussi bien parce qu'on n'est pas là pour vivre 24 heures sur 24 tous ensemble tout le temps à tout moment. Mais c'est vrai qu'en Europe, j'ai le sentiment que l'amitié est beaucoup plus rapide après les premiers instants de convivialité. Mmh. Ici, il y a une sorte de... On a envie d'aimer l'autre instantanément, mais par contre, on se laisse le temps, on se laisse une chance de le découvrir un peu plus longuement.
On aime se parler de balcon à balcon, mais on n'est pas pressé d'inviter l'autre chez soi.
Exactement.
Ouais, ouais. Pourquoi l'aide internationale?
Ben écoutez, ça est arrivé à un moment de ma vie où en fait j'avais déjà eu une première partie de ma carrière, à peu près 8 années dans le secteur privé, dans le marketing en France. Et puis à cette occasion-là, un peu avant la trentaine, j'ai décidé de rejoindre le Luxembourg pour des raisons sentimentales. Donc, et là, j'ai dû chercher un nouveau travail et je me suis dit, quitte à chercher un nouveau travail, autant essayer de lui donner un peu plus de sens, c'est-à-dire travailler pour une raison... pour une raison finale intéressante et qui se rapprocherait de l'humain. Et il s'est trouvé qu'Handicap International Luxembourg, à ce moment-là, cherchait un individu capable de faire de la communication et j'ai eu la chance d'être choisi.
Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la prochaine parce que je me posais la question, qu'est-ce qui est venu, l'international ou le handicap? Mais on dirait que tout est arrivé à peu près au même moment.
Non, le handicap est finalement venu quand même un peu plus tôt. Le handicap, c'est des amitiés qui m'ont porté vers le handicap. Il se trouve qu'en France, j'étais membre d'un groupe de gospel, je chantais. Et dans ce groupe de gospel, d'autres choristes étaient en situation de handicap. Et j'ai juste vécu des moments absolument merveilleux à leur côté, donc aux côtés de tous les autres choristes, dans une situation de mobilité totale. Et puis à leur côté, à eux, qui m'ont montré, qui m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas plus handicapés que moi, par exemple, et que c'était pas ce qui allait les empêcher, en tous les cas, de mener leur vie et de vivre leur passion. Et ça, c'était entre 20 et 25 ans que j'ai eu ce contact-là. Et puis, quand il a fallu choisir une nouvelle carrière, je me suis dit, pourquoi pas aller dans cet univers-là, vers le handicap, qui, après tout, me faisait aucunement peur, finalement. Ouais.
Vous avez... un double défi à Handicap International parce que, bon, le but ici pour vous est d'utiliser le chapitre canadien pour amasser des fonds et aider certaines personnes dans des situations beaucoup moins avantagées. Mm-hmm. Déjà, je vais peut-être avoir moins envie de soutenir financièrement des gens à l'étranger et peut-être encore moins des personnes handicapées. Vous avez comme deux barrières pour arriver à mon porte-monnaie. Vous avez vécu dans différents pays, France, Belgique, Luxembourg, Canada, à tout le moins. Parlez-moi des différentes perceptions, d'abord envers la personne handicapée, puis à l'égard de celui ou celle qui vit loin de soi.
Alors, à l'égard de la personne handicapée, je pense que je n'ai jamais vu autant de personnes handicapées que depuis que je suis arrivé à Montréal, dans les rues, dans la société. À Luxembourg,
mais
par
quand
exemple...
vous voyez l'état de nos rues, on comprend pourquoi.
Non, mais à Luxembourg, par exemple, il y avait une forme de dissimulation, finalement, du handicap, avec une institutionnalisation très, très poussée des enfants en situation de handicap. Beaucoup moins de visibilité du handicap dans nos rues, ce qui est vraiment flagrant ici. Et c'est pas parce que je suis sur Accès Libre que je vous dis ça, c'est vraiment un constat. Après, voilà, mon intérêt a été plus poussé pour le handicap à partir du Luxembourg. Donc, je peux comparer Luxembourg, Canada. Mm-hmm. J'ai moins de vision sur la France. Même si je vous dis, moi, j'ai passé des années à chanter avec des personnes en situation de handicap. Donc, finalement, la représentation et le regard sur cette catégorie de population ne me semblait pas gênante. Mm-hmm. Après, le regard sur l'autre, sur celui qui est loin de chez lui... Ben, moi, finalement, en bougeant, en allant au Luxembourg, en venant ici, je me suis trouvé dans la position de l'immigré. Mmh. C'est-à-dire que de celui qui quitte son pays pour aller dans un autre pays. Et on n'est finalement pas au début, en tous les cas, chez nous. Et je trouve que c'est très, très enrichissant d'apprendre ça. D'apprendre à se considérer comme un immigré. Donc, on a certaines règles à respecter. On arrive avec notre culture. On essaye d'appréhender la culture d'accueil. Et puis, je pense qu'au final, la réussite, c'est un mix entre ces deux-là, c'est-à-dire de ne pas se perdre totalement, pas perdre sa culture d'origine, et puis essayer d'amasser et d'emmagasiner tout ce qui est bien dans la culture d'accueil.
Ouais. Comment convaincre les gens d'aider l'autre alors que les besoins sont si grands ici, à chaque semaine, on les évoque?
Tout simplement, mais même si ce n'est pas tout simplement, mais il faut bien prendre conscience qu'on est interconnecté. Qu'on le veuille ou non, on est lié ici dans votre quartier. Les gens autour de votre quartier sont connectés avec vous. Votre ville est connectée avec vous. Le pays et les autres pays. Si on ne fait rien pour les pays en voie de développement, on va laisser pourrir une situation qui un jour nous retombera dessus. On le voit malheureusement ici dans les contextes très sécuritaires qu'on vit en ce moment. Si on n'accompagne pas les pays en développant les pays les plus pauvres, si on n'accompagne pas les communautés qui ont besoin de nous à l'étranger, c'est un nid à problème de toute façon. Ça reviendra contre nous. Il faut pas se dire que nous, on est bien ici, on est protégé et regardons pas ce qui se passe à l'étranger. C'est absolument faux. C'est faux depuis maintenant des années et ça va s'accélérer parce qu'on ne peut pas vivre sans le lien avec l'étranger.
Handicap international, combien de chapitres actuellement?
Quand vous dites chapitre, c'est-à-dire...
Bureau ou pays...
Alors, on a huit pays, huit bureaux dans les pays dits du Nord, donc qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, des organisations principalement destinées à mobiliser les ressources mm-hmm. pour aider les 60 pays dans lesquels on intervient dans le Sud.
Un projet qui va bien, un autre qui prend l'eau.
Ah, le projet qui va bien, c'est toujours celui qu'on a envie de faire. Hein. C'est le futur projet. Hein. Tous les projets en cours, après, ils deviennent moins intéressants. Non, le projet qui va bien...
Ah, c'est drôle, ça.
Le projet qui va bien, à mon sens, ben, j'en ai plusieurs en tête, mais notre organisation, elle a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant. On est en train de se redéfinir. On est en train de voir comment faire mieux, faire plus grand, comment avoir plus d'impact dans les 10 prochaines années. Et on est au cœur de ce sujet-là. Donc, nous, ici... au Québec et au Canada, mais tous nos confrères aux États-Unis, en Europe, et puis tous les 60 pays dont je viens de parler, on est dans une grosse émulation intellectuelle pour savoir comment faire mieux, comment s'appuyer sur ce qu'on a déjà très bien fait depuis 30 ans, puis comment faire autrement, des nouvelles choses, de l'innovation, pour accompagner toujours plus de personnes. Et ça, c'est super réjouissant, finalement.
Et un projet qui prend l'eau?
Alors, un projet qui prend l'eau, je vais être très, très opérationnel, mais... Et puis peut-être pas très original, mais la crise syrienne était vraiment un projet où on s'enlise, mais nous, tous les acteurs humanitaires, tous les États et les pays concernés, au premier chef, hein, la Syrie, mais les pays avoisinants, Jordanie, Liban, Irak, il faut vraiment avoir beaucoup d'enthousiasme et d'espoir en l'avenir pour se dire qu'on sortira de cette crise-là. Donc c'est de temps en temps risqué. Alors pour nous, c'est risqué d'être un peu pessimiste. Mmh. Donc il faut être super vigilant à ça.
C'est drôle parce que ça revient, que ce soit avec Médecins sans frontières ou que c'est souvent la Syrie, puis on a l'impression que, en tout cas, je suis pas prêt à dire là, que les gens sont inactifs, mais que les principaux intéressés ou concernés, c'est-à-dire les causes de ce conflit-là, ne changent absolument mais rien.
Et non, puis des nouvelles causes s'ajoutent de mois en mois. Il y a des nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Il y a des nouvelles crises à la périphérie de la crise première. Et c'est vraiment un marasme.
C'est pas les bleus contre les rouges, là. C'est beaucoup plus compliqué.
Ah non, c'est plus qu'un arc-en-ciel.
30 secondes ou, bon, je vous en laisse 45. J'aimerais ça que vous mettiez la table puisque, justement, on va parler d'un des projets que mène de front Haïti, c'est-à-dire Handicap International en Haïti. Donc, si vous mettiez la table de ce projet-là avant qu'on écoute la prochaine pièce.
Oui, ben justement, j'aurais pu dire un projet qui va bien, c'est aussi Haïti. Ouais. Haïti, malheureusement, on se souvient tous, 5 ans en arrière, quasiment pas jour pour jour, parce qu'on est à un mois de la catastrophe, un séisme dévastateur, le pire du siècle. Donc, n'ayons pas peur des mots. On parle de 200 000 victimes, donc de personnes décédées, mais on parle aussi de 300 000 blessés. Et puis plus inquiétant pour nous en tous les cas, c'est cette population de nouvelles personnes en situation de handicap, 2000 à 4000 amputés. Et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Comment on les accompagne? Comment on a su les accompagner à l'issue de la crise? Et puis surtout, comment on continue de les accompagner après pour faire en sorte que Haïti se relève comme il faut?
On va causer avec le chef de projet de la formation des techniciens...
orthoprothésistes.
Prothésistes.
Voilà, pour justement fabriquer ces fameuses prothèses nécessaires aux amputés.
Sans congé, bon nous ouais nous pas tomber mais faut qu'on aime la privée. Bouche yo douce qu'on surette, soufflette pas chouette. Yo t'es même, mettre lunettes, nous prête, nous pas qu'à disparaître. Espoir sans croyance, en bouger même sens. Dans le mien tragédie, en fait une acte conscience. 100% n'a pas j'y, jodi, bâti. On se traite pour Haïti, pour les caps jouer des propres frills.
Qu'est-ce qu'il y a?
Sin macadal nous pas joué ni un bon fiti. Éducation en valet qui fait briller tout l'esprit. Honoré sans tête, nous y a tous un nouvel
dit. Le gars de pingue, m'cap de pas fini. Oui, mon époti, c'est vos belles des Antilles. Où c'est yon soleil, papa, mon Dieu béni. Si que m'a pressé, les m'a gardé, on a tibi.
avant. American businessman ak machan. Malere de sa fan koupe kan sispan. On dit tel espoir prier continue. On dit tel espoir prier continue. On dit tel espoir prier continue.
C'est une des belles choses issues de ce drame haïtien. Sékou Keïta est au bout du fil. Il est chef de projet pour la formation des techniciens orthoprothésistes de Handicap International. Sékou, bonjour.
Bonjour.
Je suis curieux, vous êtes, vous êtes Sénégalais, mais vous êtes du côté d'Haïti depuis combien de temps?
Effectivement, je suis là depuis janvier 2012, donc ça fait quelques années déjà.
Bonjour Sékou, c'est Jérôme de Handicap Montréal. Tu vas bien?
Oui, ça va.
Alors Sékou, on va juste réexpliquer à nos auditeurs en fait l'ensemble grosso modo de l'intervention de Handicap International en Haïti et puis après on va basculer directement sur ton domaine d'action à toi qui est donc la formation des techniciens en orthoprothésie. Juste rappeler finalement à nos auditeurs que Handicap International est intervenu dès les premières heures du séisme parce qu'il s'avère que nous étions déjà sur place. Suite au cyclone en fait et aux dévastations du pays et on avait une flotte de camions pour assurer une livraison d'aliments en fait avec le programme alimentaire mondial. Donc on était sur place et puis au moment du séisme on a pu mettre cette flotte à disposition des autres organismes humanitaires qui arrivaient pour distribuer l'aide. Puis bien sûr très rapidement on s'est orienté sur l'accompagnement des personnes victimes du séisme et des amputés. Et puis aujourd'hui, 5 ans après, si on a toujours ce rôle en réadaptation, et Sékou va nous en parler à travers la formation qu'on offre aux Haïtiens, on a aussi des travaux en termes d'accessibilité, donc favoriser l'accessibilité des transports en Haïti, favoriser aussi l'accessibilité des abris, parce que Haïti fait face à de nombreuses catastrophes naturelles finalement, et donc comment garantir que les personnes en situation de handicap puissent aussi se protéger en cas de cyclone, en cas de séisme, et puis aussi beaucoup d'insertion économique, donc de travail auprès des personnes en situation de handicap pour leur permettre de relancer une activité économique et de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ce qui nous... Oui, Luc?
Je me posais la question parce que dans mes lectures, je voyais que environ 4000 personnes auraient besoin d'une prothèse, mais que moins de la moitié en ont. Comment choisit-on à qui l'on attribue ces prothèses, orthèses? Ça ne doit pas être des choix faciles à faire.
Oui, effectivement. Merci de la question. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas simplement du service provider. Ça dépend aussi du patient. Donc, qui font que les gens n'ont pas accès à ces services. Bon, effectivement, après le séisme, tous les services étaient gratuits, donc les gens pouvaient avoir des prothèses gratuitement. Et il y a eu assez de campagnes de sensibilisation par rapport à ça, tout ça. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres aspects, des aspects sociaux, des aspects socio-économiques aussi, qui font que, quelquefois, la personne préfère montrer son handicap pour mieux sensibiliser les gens dans le cadre de la mendicité, dans le cadre des aides financières qu'ils pourraient obtenir, tout ça.
Donc, ça peut être parfois un choix personnel.
Oui, ça peut être un choix personnel.
Je crois qu'il y a cet aspect, puis il y a aussi un autre aspect, c'est que finalement, Il y a aussi une difficulté d'identifier toutes les personnes qui ont besoin d'une prothèse, parce que autant au moment du séisme, elles étaient forcément sur place, malheureusement, mais après il y a eu beaucoup de gens qui se sont dispersés et qui ont fui Port-au-Prince. Il faut aussi se souvenir que Port-au-Prince a été aussi, pas évacué, mais beaucoup de gens ont eu peur qu'il y ait eu des nouvelles secousses, donc beaucoup de gens ont été perdus entre le moment où elles ont dû être amputées et puis après. Il y a certaines personnes dont on ne sait plus forcément où elles se situent, donc c'est ce qui explique aussi que parmi les chiffres de victimes, tout le monde ne soit pas encore appareillé.
Ouais. Alors, ça c'est une des raisons, mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, ça c'est une des raisons aussi. L'autre raison aussi, il y a des personnes qui sont jusqu'à présent cachées, qui sont dans les familles, qui ne sortent pas aussi. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais il faut préciser aux gens que parmi ces facteurs, il y a aussi un choix personnel du patient. Mais je sais que dans toutes les structures, on a mis en place un système pour que l'accessibilité soit plus facile à des patients, même si maintenant on est en train de réfléchir en termes de développement, donc en termes de pérennité de ces activités. Mais au départ, on avait rendu les produits vraiment accessibles à tout le monde. Et là, avec les programmes de sensibilisation, c'est sûr que les demandes vont augmenter. Bon, et les amputés augmentent parce que au départ, c'est vrai, il y avait le séisme, tout ça qui a causé beaucoup d'amputations. Mais maintenant, il y a d'autres types de traumatismes qui sont causés par les accidents de la route, par certaines pathologies comme le diabète, tout ça. Donc, il y a de plus en plus de cas d'amputés aussi.
Et alors, justement, c'est face à cette demande, malheureusement, qui augmente, donc qui a augmenté d'un coup important au moment du séisme et qui augmente aussi. Pourquoi, si tu peux expliquer pourquoi on a choisi de mettre l'accent sur la formation des personnels haïtiens?
On s'est rendu compte, malheureusement, ça a été le déclic, le tremblement de terre, avec ses conséquences, tout ça. On s'est rendu compte qu'en matière de professionnels de la réadaptation, Haïti était très, très mal servi. Hein? Il n'y avait pas d'orthoprothésistes diplômés, il y avait quelques kinés, mais vraiment, au niveau professionnel, ils étaient très en deçà des normes. Donc, c'est par rapport à ça que Handicap a mis en place un projet pour au moins Haïti ait des gens bien formés dans le domaine et puisse continuer le travail. Parce que pendant l'urgence, il n'y a que des étrangers qui intervenaient, des autres prothésistes africains notamment, ou bien salvadoriens, qui prenaient en charge les patients amputés, tout ça. Et on se dit qu'en termes de pérennité, par rapport aux besoins du pays, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut penser, former des gens au niveau local, mais leur donner une formation de qualité, bien structurée, pour que la prise en charge puisse se faire de manière adéquate. Donc, c'est pour cela qu'on a mis en place un projet de formation en partenariat avec l'Université Don Bosco de El Salvador, à travers un partenaire local qui s'appelle IEMS aussi, en Haïti. Et nous sommes presque vers la fin de cette formation parce que nous sommes en plein examen final, examen qui est validé par ISPO qui est l'organisme international au niveau orthoprothèse.
Donc, vous êtes sur le point d'avoir une nouvelle cohorte active sur le terrain?
Oui, parce qu'actuellement, ils sont 22 potentiels diplômés d'ici quelques semaines qui seront diplômés, d'ici une semaine ou deux semaines, quoi.
Ah, c'est chouette. Sakou Keita, lui, est donc le chef de projet de la formation des techniciens orthoprothésistes d'Handicap International en Haïti. Je vous pose la question à vous deux, messieurs. Est-ce qu'on a plus besoin d'orthoprothésistes ou de prothèses 5 ans plus tard?
On a besoin des deux.
Vous êtes d'accord, là. Les deux, vous dites la même chose, mais répondez quand même à la question de l'animateur.
Non, est-ce que... Qu'est-ce que vous...
Le besoin est-il plus grand chez le praticien ou la prothèse?
Non, les deux sont liés. Ouais. Les deux sont liés parce que s'il n'y a pas le professionnel, on n'a pas un produit de qualité. Mm-hmm. Hein? Et le produit de qualité, ça signifie répondre aux besoins même du patient. Et ça... Ça nécessite vraiment quelqu'un de qualifié. Et donc, c'est un vrai besoin.
Mais
il y a un taux normalement par rapport à la population, tout ça, un taux standard, tout ça. Pour Haïti, on est en deçà. Bon, Handicap a mis à poser une pierre dans la construction. Mais on n'a pas terminé le bâtiment, donc parce que on n'a pas atteint le taux nécessaire par rapport au taux standard de l'OMS.
Et on parle des orthoprothésistes, donc une vingtaine, 22, mais on a aussi des formations sur des techniciens en réadaptation. Donc là, on parle de 70 personnels, parce que c'est bien...
Oh, parce qu'il y a une suite. Après.
Voilà, une fois qu'on a créé la prothèse et adapté la prothèse au contexte du patient, il faut après le suivre en réadaptation et le suivre sur du long terme. Et donc, ces techniciens-là étaient aussi très nécessaires pour combler le dispositif, en fait.
Ouais. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais je vous souhaite à vous et à vos étudiants une bonne fin de session et que finalement, ce groupe... se sentent valorisés, fiers d'eux et que nous, de notre côté, je pense que c'est ça qu'on veut, hein, Jérôme, c'est qu'on fournisse les outils.
Tout à fait, et c'est ce qu'on appelle en fait du développement durable, c'est faire en sorte que le pays qu'on accompagne soit en mesure de s'assurer comme il faut un avenir.
On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde!
Bonne semaine!